Bienheureux, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Avant de commencer ce culte de ce matin, j'aimerais partager avec vous une parole d'un ancien président des États-Unis d'Amérique. Écoutez bien ce qu'il dit. Quand je pense à la profondeur de la tombe et aux kilos de sable qui vont nous être jetés, il n'est pas nécessaire de nuire à mon frère. Quand je pense aux ténèbres qui envahissent la tombe après la fermeture, il n'est pas nécessaire de blesser ma sœur. Quand je pense de la chaleur refoulée par le sol et à la quantité d'eau qui va me noyer pendant les pluies dans cette tombe, je ne peux pas faire souffrir mon voisin. Quand je pense, quand je serai seul, abandonné par tous, je préfère profiter de la communion quand je suis en vie. Quand je pense que mes relations sont coupées par mon passé, je ne veux pas faire mon avenir. Si je pouvais renaître pour tout reprendre à zéro, je ne commettrais pas d'erreur dans mes actions. Après une longue méditation, j'ai compris que tout est vanité sur la terre. Que Dieu vous aide, bien-aimés, à cultiver l'humilité, à l'amour du prochain, pour que la vanité ne donne que la vanité et que sera vanité. Soyez heureux et rendez heureux à votre prochain. On va entrer tout de suite dans le vif du sujet. Prions. Seigneur, j'ai besoin de toi. Ouvre ma bouche pour que ma bouche publie tes louanges, Seigneur. Dispose mon cœur à être enseigné par toi, Seigneur. Utilise-moi, Seigneur. Fais de moi un vrai adorateur pour t'adorer en esprit et en vérité, Seigneur. Seigneur, béni sois-tu, Seigneur. Merci, Seigneur, pour mes frères et sœurs qui sont là parmi nous, Seigneur. Et ceux et celles qui n'ont pas pu nous rencontrer ce matin, Seigneur, à cause de certaines difficultés, à cause de certains imprévus, Seigneur. Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, Seigneur. Assiste-nous, Seigneur. Dirige-nous, Seigneur. Nous te prions ainsi, dans le bon nom de Jésus, à lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Mes bien-aimés, étant chrétiens, toute désobéissance a un prix. Mais ce qui fait la valeur d'un chrétien ou d'une chrétienne, c'est l'obéissance. Je vous invite à lire avec moi dans Romains 7, versets 15 à 25. Romains 7, les versets 15 à 25. Je commence, car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je le fais, c'est que je ne veux pas. Je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car ce que je fais, pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je veux, c'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi donc moi-même, je suis dans l'entendement, esclave de la loi de Dieu, et je ne suis pas la chair esclave de la loi du péché. Que Dieu bénisse sa parole pour l'édification commune de notre âme. Je dois dire merci au Seigneur. C'est une grande joie de connaître, ou du moins de vous voir au jour le jour, dimanche après dimanche. Merci Seigneur pour des paroles réconfortantes, des mots d'encouragement, des mots d'exhortation de chacun à partager. Saint Paul disait aux Romains, qui décrit la lutte dramatique de l'homme contre le péché. En fin de compte, nous avons en nous deux êtres. Il y a le bien, il y a le mal. Ces deux êtres-là font partie de notre vie. En faisant allusion à son expérience personnelle avant sa conversion, l'apôtre déclare en effet « Je ne sais pas ce que j'accomplis, car je ne fais pas ce que je veux, mais je fais ce que je hais. » Il est vrai dans la vie de tous les jours, nous ne faisons jamais ce que nous voulons. C'est ce qui nous arrive de temps en temps, c'est de faire vraiment le mal. Le mal est plus pratique, le mal est plus vital à faire que le bien. Pour faire le bien, il est toujours difficile à faire le bien. Mais pour le mal, dans une fraction de seconde, on peut faire vraiment des mots MAUX de différentes façons. Mais la lutte dramatique de l'homme contre le péché, en faisant allusion à cette expérience personnelle, il est vrai que nous ne faisons pas ce que nous voulons. Mais je sais ce qu'en moi, c'est-à-dire dans ma chair, n'habite pas le bien. Car vouloir le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas. Malheureux homme que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Mais bien-aimés, ne soyons pas hypocrites avec nous-mêmes. La Bible nous dit que, c'est pas la Bible qui nous dit, bon, il y a certains philosophes qui nous disent que c'est au pied du mur qu'on reconnaît un vrai maçon. La chenille est devenue papillon. Ça, ce sont des vraies réalités. Et des fois aussi, ça nous porte confusion. Des fois, on peut être un bon maçon. On peut être un maçon. On n'est pas bon maçon pour ça. On peut poser des papins, on peut poser des briques, mais cela ne veut pas dire qu'on est un vrai maçon. Nous, étant chrétiens, on peut être comme ça aussi. Parce que nous, étant chrétiens, nous devons être un miroir dans le monde. Au travail, nous devons être un exemple. Dans les rues, les personnes nous regardent. Ce que nous faisons, bon, si un tel ou une telle est chrétien ou chrétienne, il fait ça ou elle fait ça, et moi qui ne suis pas chrétien, ça ne sert à rien. Nous devons être un modèle, comme Paul disait à Timothée. Partout où nous passons, nous devons être un modèle. Ne soyons pas des hypocrites avec nous-mêmes, soyons réalistes. Celui que Dieu voit en nous n'est pas comme mort, mais ce n'est pas le même que celui qui vit. Ce sauveur qui n'est pas mort pour toi, afin que tu puisses continuer à vivre comme bon nous semble. Mes amis, mes frères et sœurs, nous ne devons pas vivre comme bon nous semble. Parce que Jésus-Christ a payé le prix fort pour vous et moi ce matin. Il a fait le sacrifice parfait sur la croix pour vous et moi. C'est nous qui devons le payer. Mais, étant chrétien ou chrétienne, nous vivons à notre gré. Nous vivons comme bon nous semble. Non, Jésus n'est pas mort pour que nous puissions vivre comme bon nous semble. Jésus n'est pas mort pour que nous vivions comme à notre gré. Notre Seigneur est mort afin que, dès à présent, que Jésus puisse vivre en moi. C'est le but de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le prix qu'il a pris et qu'il a payé sur la croix pour que nous vivions sa vie en nous, en moi. Mais bien aimé, c'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme. C'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme. Il est vrai que dans un verset que nous lisons couramment, peut-être nous ne prenons pas le sens de ces mots. Des fois, il y a certaines confusions. Dans 2 Corinthiens 5, 17, il nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais il y a une petite confusion. Si quelqu'un est en Christ, ça veut dire que celui qui est sauvé, il est une nouvelle créature. Mais des fois, nous prenons ce verset comme bon ensemble. Alors, je suis en Christ, je suis une nouvelle créature. Mais soyons réalistes. Des fois, des non-chrétiens disaient, pouf, voilà la nouvelle créature, regarde ce qu'il fait. Des fois, votre voisin, votre voisine a un œil sur vous parce que vous êtes chrétien ou chrétienne. Mais bien-aimés, ne gâchons pas notre vie par le péché. Ce cri de douleur échappe à tout être humain qui réfléchit sur la contrariété de sa nature. Il est l'expression même de notre misère. Si le pécheur veut être délivré de son douloureux sentiment de culpabilité et d'esclavage, il doit tenter une démarche pénible. Il doit s'humilier et s'accuser devant Dieu et confesser ses péchés. S'identifiant en quelque sorte avec le fils prodigue qui s'écrie, « Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Ou encore avec le publicain qui n'ose lever les yeux et frappe la poitrine et dit, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Ici, on voit dans ces dits-là une sincérité de cœur, une confession vraie. Mais des fois, nous ne voulons pas nous confesser nos péchés, parce que ce péché est tellement mignon en moi, ce péché est tellement bon pour moi, je ne veux pas le confesser. Mais on voit la différence entre le publicain qui dit que « Seigneur, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur », mais dans Luc 15, verset 21, là, ici, on voit que le pécheur n'essaie pas. Il n'essaie pas de se justifier devant Dieu. Il n'y pense même pas parce qu'il n'y a pas de réticence dans sa confession. Il est prêt à payer le prix. Sa confession n'est pas une reconnaissance vague et anonyme des fautes non spécifiées, mais elle est individuelle. Elle fait aussi des mentions de péchés précis. À mesure qu'il les nomme, il veut bien s'en emparer, mais il veut s'appliquer de toutes ses forces à ne plus retomber dans ses erreurs passées. Mais bien-aimés, attention, notre passé ne doit pas voler notre présent. Notre passé ne doit pas voler notre présent. Cela veut dire que lorsqu'on est en Christ, il y a des choses qu'on doit laisser en arrière. Et n'essayons pas de revenir sur ces choses-là. Ça peut vraiment nous faire du mal. Ne laisse pas ton passé te voler ton présent, mais Souviens-toi de ta détermination. Souviens-toi de ta détermination. Vous avez fait un choix de suivre le Seigneur, il faut le suivre jusqu'au bout. Ce n'est pas en marchant un pied ici, un pied là, que ça va changer. Non. Souviens-toi de ta détermination. Tu as fait le choix ultime de suivre le Christ, mais y a-t-il un prix à payer pour suivre le Christ? C'est la question que je vous pose ce matin. Est-ce qu'il y a un prix à payer pour suivre le Christ? S'il y a un prix, mais à quel prix? L'apôtre Paul, parlant aux chrétiens, en les exhortant à la repentance. C'est une partie du prix aussi à payer pour suivre le Christ. C'est de repentir. Hier, j'étais un assassin. Aujourd'hui, je suis un homme de Dieu. Ça, c'est une partie du prix à payer de suivre le Seigneur. Ça veut dire que je repens de mes péchés. J'étais un voleur. Aujourd'hui, je ne le suis pas. Tout ça, c'est de la repentance. En un mot, sa confession est sincère et complète. Proverbe 28, verset 13. Le pardon est à ce prix, Dieu qui sonde les cœurs juge les sincérités d'une confession. Et la parabole du pharisien et publicain sont toujours applicables à notre époque. Il faut aller à Dieu en toute confiance et lui ouvrir son cœur en lui, rien caché. Psaume 32, verset 5. Je t'ai fait connaître mon péché, dit le psalmiste. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as effacé la peine de mon péché. Mais bien aimé, la Bible renferme plusieurs exemples de confessions. Les plus connus sont ceux de Daniel, qui sont de David aussi, et ceux de Néhémie. Pour Daniel, pour David, c'est le psaume 51. Pour Daniel, c'est Daniel 9, verset 4 à 19. Pour Néhémie, c'est Néhémie 1, verset 5 à 7. Ajoutons que la sincérité de la confession implique de la part du pécheur l'obligation morale de dédommager dans toute la mesure du possible ceux ou celles auxquels il aurait porté préjudice par notre faute. Si tout péché est d'abord une offense à Dieu, de ce fait doit être confessé. C'est normal. Si nous disons que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes des pécheurs, et péché, c'est une offense à Dieu. De ce fait, ce péché-là doit être confessé. Et ce qui en découle, que toute faute à l'égard du prochain doit être aussi nécessairement confessée autant que possible à celui pour bien montrer qu'on ne peut pas aimer Dieu et en haïssant son prochain. Étant chrétien, nous aimons Dieu, que nous ne voyons pas. Et nous haïssons notre prochain. Mes amis, il y a un problème là. Notre prochain qui est à côté de nous, nous l'haïssons. Et nous disons que nous aimons Dieu que nous ne voyons pas. Là, il y a un problème là. Nous aimons Dieu que nous ne voyons pas et nous haïssons notre prochain qui est à côté de nous. Comment vous comprenez ça? Moi, c'est une chose vraiment impossible à comprendre. J'aime Dieu que je ne vois pas. Et je hais mon prochain qui est à côté de moi. Et je me suis dit que je suis chrétien. Non. Je suis un crétin. Pas chrétien, je suis un crétin. La miséricorde divine n'est pas accordée à un cœur dur et insensible. Dieu suborne son pardon à celui que l'homme accorde à son semblable. Matthieu 6, verset 12. Jésus nous rappelle aussi cette condition impitoyable de la parabole du serviteur. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est que Dieu seul? La confession sincère du pécheur entraîne le pardon divin. Cela veut dire que la dette est remise au débiteur insolvable. Mes amis, ce n'est pas une illusion, ni un produit de l'imagination. C'est vraiment la réalité. Je t'ai fait connaître mon péché et tu as effacé la dette de mes péchés. Mais en disant ça sincèrement, Dieu fera tout pour te délivrer. Parce que de cœur sincère, vous faites connaître vos péchés à Dieu. Cela veut dire que la dette est remise au débiteur. Et Saint Jean disait de son côté, si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de cette iniquité. On a pu dire que l'homme est un homme qui ne comprend pas. C'est un homme qui ne comprend pas. Pourquoi? Pourquoi est un homme qui ne comprend pas? C'est parce qu'il a double vie. L'homme est double. Il y a le bien, il y a le mal. Des fois, nous ne comprenons pas. Des fois, nous faisons des choses vraiment que nous ne comprenons pas. On peut dire que c'est un mystère. L'homme est double entre le bien et le mal, entre les exigences de sa conscience et la faiblesse de sa volonté. Son pouvoir ne correspond pas à son devoir. Son pouvoir ne correspond pas à son pouvoir. Il est esclave de ses passions. Des fois, notre volonté est incertaine en faisant le mal que nous reprouvons sans pratiquer le bien que nous approuvons. Chacun de nous découvre en lui deux êtres qui se battent avec acharnement. L'un cherche le bien et l'autre tend au mal. C'est la lutte de l'esprit contre la chair. La raison contre les sens. Et cette lutte crée en nous une inquiétude sans cesse renaissance. Jusqu'au moment où un miracle réussit à établir l'harmonie et la paix. C'est-à-dire la primauté du spirituel sur le matériel. Nous devons donner à Dieu la première place. Cela veut dire que nous ne devons pas, comment dirais-je, que le matériel soit au niveau, au-dessus de tout. Parce que la Bible nous dit que « Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. » Dieu n'est pas un homme pour mentir. Tout ce qu'il dit, il le fera. En son temps. Il est vrai qu'il y a une lutte acharnée entre nous. Le règne de l'esprit sur la chair, si le bien nous attire, il nous enthousiasme, le mal aussi nous attire et nous séduit. Et des fois, le mal a toujours le pouvoir sur le bien. Le mal, il a toujours le pouvoir sur le bien. Soyons sérieux, mes bien-aimés. Il y a certains frères ou sœurs, on dit que la Bible nous dit de ne pas mettre sur un joug étranger. Mais il y a des exceptions. Des fois, on voit un frère chrétien se mettre en couple avec une sœur non chrétienne. Deux fois, vice-versa, une femme chrétienne avec un non-chrétien. Mais des fois, on fait ça par attirance. Si je suis chrétien, je suis en couple avec une femme non-chrétienne, peut-être le bien peut prendre le dessus. Ah, ça c'est fort difficile. Moi, depuis ma conversion, je n'ai jamais vu une femme convertie ou un homme converti avec, se met en couple avec un inconverti et les convertis, la femme chrétienne ou bien le frère chrétien prend le dessus sur le converti. Non, c'est le non-converti qui prend le dessus. Ça arrive souvent. Ça arrive très souvent, mais c'est minime, quoi. La sœur dans sa tête, il dit que bon, il va me suivre. Ou du moins, le frère dit que oui, elle va me suivre, parce que je suis chrétien, je suis né de nouveau. Et pourtant, non. 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, un enfant, deux gosses, trois, quatre, rien n'est changé. Mais bien aimé, c'est Dieu qui dirige les pas de l'homme. Dieu a un plan pour chacun de nous. Je n'ai pas dit, je ne critique pas une sœur ou un frère qui se met en couple avec un inconverti ou pas. Non, mais c'est un exemple. Dieu a un plan pour chacun de nous. On dit que le bien nous attire et nous enthousiasme. Le mal aussi nous attire et nous séduit. Il n'y a pas un homme en nous, il y a deux. L'un qui est serviteur du bien qu'il aime et voudrait l'accomplir. L'autre qui est captif, complice du mal qui règne dans le monde. Regardons ce qui se passe en ce moment-là. Il y a le Covid-19, ce n'est pas seulement en France, dans le monde entier. Soit disant que c'est Dieu qui voulait que ça arrive, c'est ceci, c'est cela. Vraiment, on met le fardeau sur le dos de Dieu. Les prophètes ont prophétisé, ils ont dit que oui, c'est Dieu ceci, c'est Dieu cela. Mais non! C'est tout ça revient à la complicité de l'homme. L'homme n'est plus ce qu'il est, il n'est plus ce qu'il devait être. Il semble ne revenir jamais. Pourquoi? Parce que dans notre monde chrétien, figure des chrétiens partagés. Je dis des chrétiens partagés, oui vraiment, mes frères et sœurs, il y a des chrétiens partagés. Je m'explique. Il y a des chrétiens de nom. Il y a des chrétiens d'adhésion. Il y a des chrétiens d'occasion. Plutôt que de conviction. C'est dommage. Là, Hébreux 11, verset 1er nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Frère Roland a la foi. Sœur Jeanne-Rose a la foi. Sœur Malène a la foi. Est-ce qu'on a les mêmes fois? C'est ça qu'on appelle chrétien partagé. Chrétien d'adhésion, chrétien de nom, chrétien d'occasion, plutôt que de conviction. Il y a aussi le chrétien moyen. Le chrétien moyen, ça veut dire qu'il a une petite foi. Il n'a pas confiance en Dieu parce que quand il demande quelque chose, il veut que ça arrive tout de suite. C'est ça le chrétien moyen. Il veut que tout de suite ça arrive. Cela veut dire qu'il y a aussi le chrétien médiocre. 50-50. Donnant, donnant. À la manière de Jacob, qui jouait avec Dieu. Ah, Jacob, c'était ça, hein? Il jouait avec Dieu, hein? C'est. Tu me donnes, je te donne, c'est donnant, donnant. Il y a des chrétiens comme ça aussi. Ah Seigneur, si tu ne me donnes pas ça, je ne prie pas. Ça, c'est le chrétien moyen ou le chrétien médiocre. On n'est pas des marchands de tapis, mes bien-aimés. Je t'obéirai si tu me bénis. Tout ça, c'est Jacob qui jouait avec Dieu. Je t'obéirai si tu me bénis. Tu me donnes, je te donne. Donnant, donnant. Mais dans ce monde actuel, c'est ça que nous vivons. C'est donnant, donnant. Bien-aimés dans le Seigneur, bien des gens traitent le Seigneur comme un simple prestataire. C'est dommage. C'est dommage. Le Seigneur n'est pas un simple prestataire de service auquel il faut appel en cas de besoin, uniquement dans un but bien précis. Dans ce cas, est-ce que nous pouvons dire que nous aimons Dieu quand tout va mal? Il y a des chrétiens vraiment qui aiment Dieu quand tout va mal. Mais quand tout va bien, il oublie tout. Mais quand tout va mal, quand il y a une maladie, Allah, à genoux, il prie Dieu du matin, midi, soir. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui ne cloche pas. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans sa vie. Mais quand tout va bien, il oublie tout. Mais posons-nous cette question. Que ferait Jésus à ma place? Il convient de demander si tous ces bouleversements qui arrivent dans ce monde à qui la faute? À qui la faute, mes bien-aimés? Eh bien, la faute est à l'homme et les conséquences de l'absence de Dieu dans leur vie. Mais c'est trop beau pour être vrai. Si vraiment tout le monde était chrétien, il n'y aurait pas tout ce temps de vacarme, il n'y aurait pas tous ces bouleversements dans le monde. Et en Haïti, il y a un nouveau problème qui s'appelle Kawash. Ah vraiment, on vit vraiment dans les derniers temps. Kawash, c'est un appareil pour laver les voitures. Maintenant, qu'est-ce qui se passe en Haïti? Les filles ou bien les femmes représentent les voitures. Elles sont toutes nues et ils prennent le tuyau là, ils lavent les femmes, les filles, comme si c'était des voitures. Vous voyez ce que nous vivons en ce moment? La faute est à l'homme et les conséquences de l'absence de Dieu dans leur vie. La situation actuelle dans tous les domaines est bien la conséquence logique de la disparition de Dieu chez l'individu et dans la société. Le triomphe de la chair sur l'esprit, si vraiment nous errons dans les ténèbres, nous ne faisons que récolter ce que nous avons semé. Mais bien aimé, c'est pas en mourant, ou du moins en jetant quelques pelles de terre sur notre corps que nous pouvons faire quelque chose. C'est pendant que nous sommes encore vivants que nous devons faire quelque chose. L'homme est par conséquent responsable de l'état de son choix actuel. Il est parfois, Dieu est incriminé dans toutes ces choses-là. Si cela arrive, c'est parce que Dieu le veut. Et pourtant, c'est faux, mes bien-aimés. Il n'est pas l'auteur de l'œuvre destructive qui commence sur la terre. Depuis bien des temps, seul le Seigneur Jésus-Christ peut changer les hommes. Parce que il est l'homme par excellence. Il est l'homme vrai. L'homme de toutes les races et de tous les temps. Et aussi maître des temps et des circonstances. Frère et homme de l'humilité, de l'humanité. Par la plénitude de son humanité, il nous a pris à pardonner de tout cœur. Le fait de discerner le bien du mal pose le principe de l'obligation morale. Si je suis capable de voir le bien, je dois le faire. Et si je suis capable aussi de voir le mal, je peux l'éviter. Une telle possibilité implique du même coup que l'homme est libre, donc responsable de ses actes. Amour pour Dieu, amour pour le prochain. Pour en conclure, que le Seigneur nous puisse, dans nos retranchements, au risque de nous dépouiller de tout ce que nous appelons bien ou mal, de nous lancer de nouveaux défis, parce que c'est lui qui contrôle la situation et c'est lui qui fixe le seuil. Et c'est lui qui fixe le seuil tout seul, les règles du jeu et de tous les paramètres avec leurs tenants et leurs aboutissants. Que Dieu vous bénisse. Amen.